Bonjour et bienvenue à l'émission Le quotidien des quotidiens, édition du 27 février 2018. Hélène Denis avec vous en ce mardi de retour de quelques jours de congé et j'en profite pour remercier François Brodeur qui était à l'antenne de ce micro. Et Maurice Bolduc.
Oui.
Quelle belle surprise.
Bonjour.
Jean-Sébastien Laliberté est dans la station, mais il travaille à autre chose. Alors, vous êtes venu faire la mise en onde aujourd'hui et demain.
Oui.
Vous allez bien?
Oui, toi-même.
Oui, ah oui, c'est le printemps. En tout cas, il y a une petite odeur de printemps.
Oui,
il ne faut pas exagérer, là, parce que c'est quand même le 27 février.
Ouais, c'est ça, à la prochaine bordée, on va être bien déçus.
Ouais, ben, oui, non, pas vraiment.
Non, mais si on se met trop dans la tête que
c'est
le printemps.
Oui, mais on y va une journée à la fois.
Oui, absolument.
Allez-y donc.
C'est le 27 février, donc c'est assez tranquille comme événement. D'éphéméride. On commence en 2006 quand même. Ça, c'est pour, je trouve ça quand même important. C'est l'Américain Jerry Zucker qui met la main sur les magasins Labbé. Et on se souvient que Labbé, ben, c'est la première compagnie canadienne qui a existé.
Labbé du Thon,
la compagnie Labbé du Thon. Mm-hmm. Donc, ce n'est plus canadien. Même si le magasin est sur le coin de la rue là-bas. En 1998, Nancy Morrison, médecin en Nouvelle-Écosse, est libérée d'une accusation de meurtre pour suicide assisté d'un mourant. Entre-temps, ils ont fait une loi là, pour arranger la chose. En 1997, le divorce devient légal dans la catholique Irlande. Toujours en 1997, les Américains devraient prendre note de ça. Au Royaume-Uni, une loi interdit la possession de la plupart des armes à feu. Donc, on se la relaxe sur la chose. En 1951, à 75 ans, l'artiste musical Mistinguette, né sous le nom de Jeanne Bourgeois, arrive à Montréal pour une série de spectacles. Un petit peu trop jeune, on l'a pas vu passer.
Légèrement.
En 1844, la République dominicaine devient indépendante d'Haïti. Événement aujourd'hui, là, c'est la journée internationale de l'ours polaire. C'est encore bon pour quelques années.
Ce sera, soyez plus optimiste que cela.
C'est plate à dire, mais bon, avec la fonte de la banquise et tout, ça
changement
aide,
climatique.
Ça aide pas les pauvres ours.
Ça nous aide pas non plus.
On a une pensée pour nos ours polaires aujourd'hui. J'ai deux naissances à souligner. Le romancier John Steinbeck naît en 1902 à Salinas, en Californie. Des souris des hommes et autres romans célèbres.
Des raisins de la colère,
aussi,
je pense.
Mais il me semble, oui. Et la comédienne Elizabeth Taylor naît à Londres. Petite surprise, je la pense américaine. Donc, naît en 1932. Puis pour moi, Elizabeth Taylor, c'est les yeux émeraudes qu'elle avait, le regard...
Qu'elle était splendide, cette femme.
Oui, absolument. Et on souligne deux décès. Ça fait déjà 6 ans que Chantal Joly nous quittait en 2012.
Ah, oui.
Et elle était née en 1947, sur le Parkinson, je crois, de mémoire.
Qui l'avait emporté.
Oui, et en 1986, Jacques Plante, hockeyeur canadien, lui, nous quittait. Et Jacques Plante, bon, on peut quand même le souligner, c'est le premier gardien de but qui a amené les masques pour les gardiens de but. Donc, ça les protège un petit peu plus.
Excellente initiative.
Oui.
Merci beaucoup, Maurice.
Plaisir.
À la une de la presse, actualité, fermeture de guichets automatiques en région, le dernier retrait. Des élus tentent de trouver des solutions à la disparition des guichets automatiques des jardins dans les villages du Québec. Et dans la section affaires, les ristournes aux membres en hausse de 40 %. On parle ici du mouvement des jardins. Enquête, recherche médicale, médecin ou porte-parole, l'opacité des liens entre certains chercheurs et l'industrie pharmaceutique inquiète de nombreux experts. Section pause, flotter contre l'anxiété. Les caissons de flottaison suscitent un nouvel intérêt. Une grande entrevue Hubert et, point de suspension, Thomas. Nathalie Petrovski rencontre le mannequin et acteur Thomas Beaudoin qu'on a découvert dans le téléroman ou la télésérie Hubert et Fanny. Des maires en guerre contre Desjardins. Une récente vague de fermeture de guichets automatiques et de comptoirs Desjardins dans plusieurs villages en région provoque une levée de boucliers de la part d'élus locaux qui craignent des effets dévastateurs sur les petites localités. Ils vont tuer des villages, ça va faire bien mal, dénonce Denis Légaré, maire de Notre-Dame-de-la-Salette en Outaouais. Les craintes sont les mêmes dans le Bas-Saint-Laurent, dans les Bois-Francs et ailleurs au Québec, où des élus et des citoyens ont fait circuler des pétitions, offert d'organiser des soupers spaghettis pour financer l'achat de nouveaux guichets ou proposer que les ristournes servent à maintenir les services locaux. Partout, les caisses locales ont rejeté ces solutions. On a proposé que la municipalité paie pour le guichet qui coûte 75 000 $ selon ce que la caisse nous a dit. Mais ils nous ont répondu que ça ne se faisait pas, a dit Denis Légaré, maire de Notre-Dame-de-la-Salette. Les maires des villages touchés estiment que Desjardins, en tant que coopérative, devraient se préoccuper des besoins de ses membres tout autant que des impératifs financiers. C'est comme si les particularités des régions ne comptaient pas pour les hautes instances à Montréal, s'indigne Louis-Georges Simard, maire de Rivière-Ouelle, dans le Bas-Saint-Laurent. La grogne se manifeste de la même façon dans plusieurs régions, bien qu'il n'y ait pas de mouvement concerté des élus dans l'ensemble du Québec. L'institution financière répond qu'elle n'a pas le choix de s'adapter à la diminution de l'utilisation des guichets automatiques et des services au comptoir à mesure que les clients se tournent vers les services en ligne. Aujourd'hui, seulement 2 % des transactions sont faites dans des points de service et 7 % au guichet, tandis que 49 % des transactions sont faites en ligne. Mais le président du mouvement Desjardins, Guy Cormier, a semblé hier pour la première fois montrer une plus grande ouverture au compromis. « On cherche des solutions », a-t-il affirmé en entrevue au Soleil. Aucun élu à qui nous avons parlé hier n'était au courant de ces solutions évoquées par M. Cormier. Ce Canada réclame l'appui d'Ottawa, de Québec et de Montréal pour financer un projet de 70 millions afin d'aménager un toit rétractable au stade Uniprix. L'organisation soutient que le recouvrement du court central permettrait d'y tenir davantage d'événements en plus d'assurer la place de la Coupe Rogers sur la scène internationale. L'idée de recouvrir le stade du Parc Jarry est évoquée depuis plusieurs années, mais devient de plus en plus sérieuse. Tennis Canada vient de s'inscrire au registre des lobbyistes du Québec afin de convaincre les différents ordres de gouvernement d'y contribuer. L'organisation dit ainsi caresser un projet pour la construction d'un toit ouvrant sur le court central du stade du Parc Jarry de Montréal. On veut s'assurer que, quand on présente un match diffusé dans 180 pays à des dizaines ou des centaines de millions de spectateurs, il ait lieu, dit Eugène Lapierre, directeur du tournoi de la Coupe Rogers. Chantal Rouleau sera candidate pour la CAQ dans Pointe-aux-Trembles. C'est dans la mise à jour de la presse. Mairesse de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, Chantal Rouleau sera candidate de la Coalition Avenir Québec dans la circonscription de Pointe-aux-Trembles aux prochaines élections, ont confirmé des sources au sein de la CAQ. Candidate d'équipe de Nicodère, elle avait en novembre remporté sa troisième élection sur la scène municipale avec un peu plus de 57 % des voix. Elle siégeait à l'Hôtel de Ville depuis 2010. Madame Rouleau est membre du Conseil municipal de Montréal et est vice-présidente de la Commission sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs. C'est dans ce dernier rôle qu'elle a fait connaissance avec François Legault, explique-t-on à la CAQ. Monsieur Legault avait à l'époque publié un livre sur sa vision de la mise en valeur du fleuve Saint-Laurent. Auparavant, Madame Rouleau avait travaillé à Cascade sur les questions de recyclage. « Les libéraux fédéraux pavent la voie vers les prochaines élections avec un budget de mi-mandat mardi, donc aujourd'hui, devant s'attarder à des promesses phares tout en se dégageant possiblement une marge de manœuvre pour le dévoilement d'éléments plus éclatants dans les mois précédant le rendez-vous électoral. Le thème principal du budget fédéral sera l'égalité des sexes et il sera largement question, selon ce qu'a laissé entendre le ministre des Finances Bill Morneau, des efforts pour accroître le nombre de femmes sur le marché du travail. Le budget doit inclure notamment un congé de paternité de 5 semaines, à l'image de celui du Québec, comme moyen d'encourager les Canadiens à partager plus équitablement les responsabilités parentales. Une agence d'adoption dont les pratiques ont été jugées préoccupantes par le gouvernement vient de perdre l'autorisation d'effectuer des démarches d'adoption en Amérique latine pour des couples québécois. Le 15 février, le ministre de la Santé et des Services sociaux a révoqué l'agrément de l'organisme québécois Appel Adoption permanente pour enfants latino-américains qui œuvre en Colombie depuis 27 ans. Cette décision découle d'éléments préoccupants entourant les pratiques de l'organisme, notamment en ce qui a trait à la qualité des services et à sa gestion des dossiers, explique Marie-Claude Lacasse, porte-parole du ministère. Malgré un accompagnement soutenu du Secrétariat à l'adoption internationale, le SAI, l'organisme n'a pas réussi à redresser la situation, poursuit-elle. Au moins une famille québécoise se trouve en pleine démarche d'adoption en Colombie. Son dossier, comme tous les autres, a été transmis au SAI, le Secrétariat à l'adoption internationale, qui a pris le relais d'appel. Des pistes de solutions sont envisagées pour toutes les familles en cours de processus d'adoption, assure Mme Lacasse. La presse a recueilli les témoignages de deux femmes qui ont eu des expériences catastrophiques avec Appel. Toutes deux disent avoir été trompées par des dossiers médicaux rassurants, alors que la réalité était tout autre. De la Baltique à la Méditerranée, l'Europe restait saisie mardi par un froid glacial venu de Sibérie qui a fait une 20aine de morts en 4 jours. Cette vague de froid, surnommée la « bête de l'Est » par les médias britanniques, l'ours de Sibérie aux Pays-Bas, le canon à neige en Suède ou le Moscou-Paris en France, fait craindre pour la santé des plus fragiles sans-abri ou personnes âgées en particulier et perturbe les transports. Au moins 19 personnes ont péri à cause du froid depuis vendredi, 9 en Pologne, dont 5 durant la nuit de lundi à mardi, 3 en France, des sans-abri, 4 en Lituanie, 2 en Roumanie, dont une femme de 83 ans retrouvée mardi recouverte par la neige dans la rue, et un sans-abri en Italie. D'un bout à l'autre de l'Europe, le mercure chutait. En Italie, où Rome a connu lundi sa première neige en 6 ans, il a fait moins 40 degrés Celsius à moins de 100 km de Venise dans la nuit de dimanche à lundi, à Dolina Campuluzzo, 1768 mètres d'altitude. En Suède, moins 39,6 ont été relevés lundi en Laponie et l'Autriche a enregistré moins 25,4 degrés Celsius, un record pour février. En France, qui n'avait pas connu un tel froid à pareille époque de l'année depuis 2005, la baie d'Ajaccio, en Corse, était couverte de neige mardi matin, du jamais vu en 30 ans. Et restons dans la météo, mais par ici, encore cette semaine, le mercure se tiendra au-dessus de zéro selon les prévisions d'Environnement Canada. Le redoux, qui a marqué la fin du mois de février, a certainement donné à plusieurs l'espoir de bientôt ranger pelle et manteau. Mais ne soyez pas trop pressés, l'hiver n'est pas prêt de nous lâcher, même que mars s'annonce particulièrement neigeux. Mars est reconnu pour ses tempêtes hivernales et tout indique que ce mois pourrait être favorable aux températures extrêmes, peut-on lire dans le bulletin printanier de Météo Média diffusé hier.
Mon père n'avait fille que moi.
Mon père n'avait fille que moi.
Encore sur la mer, il m'envoie Frankyou, Yankyou, Matafai, Mitoupiteridou. Matafai, Mitoupiteridou, Laridou.
Frankyou, Yankyou, Matafai, Mitoupiteridou. Mais ta faille, mi tout pitalidou, la vider.
Encore sur la mer, il m'envoie.
Encore sur la mer, il m'envoie.
Le marinier qui m'y menait, frinkou, yinkou, ma ta faille, mi tout pitalidou. Ma ta faille, mi tout pitalidou, la vider.
Frinkou, yinkou, ma ta faille, mi tout pitalidou. Mais ta faille, mi tout pitalidou, la vider.
Le marinier qui m'y menait.
Le marinier qui m'y menait.
Il devint amoureux de moi, frinkou, yinkou, ma ta faille, mi tout pitalidou. Ma ta faille, mi tout pitalidou, la vider.
Frinkou, yinkou, ma ta faille, mi tout pitalidou. Ma ta faille, mi tout pitalidou, la vider.
Il devint amoureux de moi.
Il devint amoureux de moi.
Ma mignonnette embrassez-moi, frinkou, yinkou, ma ta faille, mi tout pitalidou. Ma ta faille, mi tout pitalidou, la vider.
Frinkou, yinkou, ma ta faille, mi tout pitalidou. Ma ta faille, mi tout pitalidou, la vider.
Ma mignonnette embrassez-moi.
Ma mignonnette embrassez-moi.
Oh non, monsieur, je n'oserais. Frinkou, yinkou, ma ta faille, mi tout pitalidou. Ma ta faille, mi tout pitalidou, la vider.
Frinkou, yinkou, ma ta faille, mi tout pitalidou. Ma ta faille, mi tout pitalidou, la vider.
Oh non, monsieur, je n'oserais.
Oh non, monsieur, je n'oserais.
Car si mon papa le savait. Frinkou, yinkou, ma ta faille, mi tout pitalidou. Ma ta faille, mi tout pitalidou, la vider.
Frinkou, yinkou, ma ta faille, mi tout pitalidou. Ma ta faille, mi tout pitalidou, la vider.
Car si mon papa le savait.
Car si mon papa le savait.
Fille battue, ce serait moi. Frinkou, yinkou, ma ta faille, mi tout pitalidou. Ma ta faille, mi tout pitalidou, la vider.
Frinkou, yinkou, ma ta faille, mi tout pitalidou. Ma ta faille, mi tout pitalidou, la vider.
Fille battue, ce serait moi.
Fille battue, ce serait moi.
Mais qui la belle lui dirait. Frinkou, yinkou, ma ta faille, mi tout pitalidou. Ma ta faille, mi tout pitalidou, la vider.
Frinkou, yinkou, ma ta faille, mi tout pitalidou. Ma ta faille, mi tout pitalidou, la vider.
Mais qui la belle lui dirait.
Mais qui la belle lui dirait.
Ce serait les oiseaux des bois. Frinkou, yinkou, ma ta faille, mi tout pitalidou. Ma ta faille, mi tout pitalidou, la vider.
Frinkou, yinkou, ma ta faille, mi tout pitalidou. Ma ta faille, mi tout pitalidou, la vider.
Ce seraient les oiseaux des bois.
Ce seraient les oiseaux des bois.
Les oiseaux des bois parlent-ils. Frinkou, yinkou, ma ta faille, mi tout pitalidou. Ma ta faille, mi tout pitalidou, la vider.
Frinkou, yinkou, ma ta faille, mi tout pitalidou. Ma ta faille, mi tout pitalidou, la vider.
Les oiseaux des bois parlent-ils.
Les oiseaux des bois parlent-ils.
Ils parlent anglais.
Frinkou, yinkou, ma ta faille, mi tout pitalidou. Ma ta faille, mi tout pitalidou, la vider.
Mon Dieu, que le monde sont arlais.
Mon Dieu, que le monde sont arlais.
D'apprendre aux oiseaux de l'anglais. Frinkou, yinkou, ma ta faille, mi tout pitalidou. Ma ta faille, mi tout pitalidou, la vider.
Frinkou, yinkou, ma ta faille, mi tout pitalidou. Ma ta faille, mi tout pitalidou, la vider.
Frinkou, yinkou, ma ta faille, mi tout pitalidou. Ma ta faille, mi tout pitalidou, la vider.
Frinkou, yinkou, ma ta faille, mi tout pitalidou. Ma ta faille, mi tout pitalidou, la vider.
L'excellent groupe Les Charbonniers de l'Enfer qui nous chantait Frinkou.
En une du devoir, grosse photo visée par des poursuites, Paolo Catania a choisi de liquider ses entreprises en 2014. Le processus est toujours en cours. Et on peut lire au-dessus de la photo, Montréal échoue à faire annuler le salaire de Paolo Catania. Son entreprise est en liquidation et la ville lui réclame 23,7 millions. Mais l'homme d'affaires a droit à une rétribution annuelle de 468 000 $. Le ministre de l'Éducation veut former un corps enseignant d'élite. Sébastien Proulx veut débattre d'un ordre professionnel et d'enseignants plus scolarisés. Patrimoine, quand Montréal devait être sauvé des eaux. L'ancienne station de pompage Craig, sous le pont Jacques-Cartier, aura une nouvelle vie. Les Montréalais lui doivent bien ça. La Russie a ordonné une trêve partielle de quelques heures par jour dans la Ghouta orientale. Une action collective a été autorisée au Québec contre des fabricants de pesticides tueurs d'abeilles. budget Morneau, quelles seront les suites de la réforme fiscale? Et Bloc québécois, nouvelle crise entre Martine Ouellette et ses 7 députés. Le ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx, propose une vaste réflexion pour valoriser la profession d'enseignant qu'il considère comme l'emploi le plus important dans une société. Il envisage une série de mesures pour réserver ce métier à l'élite intellectuelle. Création d'un ordre des enseignants, diplôme universitaire de deuxième cycle obligatoire, évaluation des professeurs, le ministre de l'Éducation lance un grand brassage d'idées. Le statu quo est impensable, affirme-t-il dans un livre qui paraît mardi, donc aujourd'hui. Il faut une révolution pour passer à une valorisation de la profession au point de sélectionner l'élite pour occuper l'emploi le plus important dans une société. Cette réflexion vaut pour l'ensemble de la société. Il faut cesser de résister à changer lorsque cela s'impose, écrit Sébastien Proulx dans le livre « Un Québec libre est un Québec qui sait lire et écrire », publié aux éditions du Septentrion. Il dit avoir écrit d'un trait ce livre de 144 pages durant le congé des fêtes il y a 2 mois. Le ministre décrit la lecture et la culture générale comme un tremplin vers la formation de citoyens libres, capables de résister à la démagogie. Et il met la table pour une nouvelle série de changements dans le réseau préscolaire, primaire et secondaire. Comme ses idoles Churchill, Lincoln et Napoléon Ier, le ministre Proulx dit être allergique au conformisme. Il dit souhaiter des conversations franches et ouvertes entre les enseignants, les syndicats et le gouvernement hors du cadre formel des relations de travail. Abandonnée depuis des décennies, point de mire de tous les passants, l'ancienne station de pompage située à proximité du pont Jacques-Cartier sera intégrée de nouveau à un nouveau plan d'urbanisme selon le cabinet de la mairesse Valérie Plante. À la Ville de Montréal, les canaux de communication officiels restent vagues, tout en indiquant qu'une réflexion est en cours pour repenser la fonction de ce bâtiment, plus que centenaire, qui ne cesse de susciter la curiosité. Environnement. Après plus d'une décennie à voir leurs abeilles mourir en grand nombre, des apiculteurs québécois réclament un dédommagement. La Cour supérieure du Québec vient d'autoriser une action collective contre Bayer et Syngenta. Ces compagnies sont les deux principales qui commercialisent les pesticides de type néonicotinoïdes au Québec, selon les documents présentés au juge Thomas Davis. La réparation financière demandée pourrait s'élever à plusieurs dizaines de millions de dollars, puisqu'au moins 300 apiculteurs seraient concernés au Québec. Le leadership de la chef du Bloc québécois, Martine Ouellette, est de nouveau contesté par la majorité de ses députés. Mais cette fois-ci, certains songeraient carrément à claquer la porte du Parti souverainiste si Martine Ouellette ne modifie pas sa façon de diriger la formation. Il y a une crise de leadership. C'est majeur. Il faut qu'il se passe quelque chose, tranchait l'ancien chef par intérim de la formation, Réal Fortin, en fin de journée lundi. Le problème dénoncé par le groupe des 7 récalcitrants, le leadership intransigeant de Martine Ouellette, une grande difficulté, sinon une incapacité à travailler en équipe, résumait Monique Posé. La chef impose les enjeux que défend le Bloc et les angles sous lesquels ils sont abordés, déplore-t-on. Ses critiques lui ont en outre reproché son discours au Conseil général du Bloc québécois il y a 10 jours, lors duquel Martine Ouellette a dénoncé devant tous les membres un petit peu de résistance au parti. Martine Ouellette déplore plutôt un conflit larvé qui précède son arrivée sur la vision du travail du Bloc que ne partagent pas les députés dissidents. Holymel recrute des travailleurs à l'île Maurice. La nouvelle Beauce doit accueillir d'ici la mi-mars un groupe de 45 travailleurs en provenance de l'île Maurice et de Madagascar, et une 60aine d'autres suivront au cours des prochains mois. Pour l'entreprise qui les a recrutés, Holimel, le défi consistera ensuite à s'assurer qu'ils restent. Sur les 119 employés attendus, la majorité doit s'établir à Sainte-Marie, une trentaine à Vallée-Jonction et une vingtaine à Saint-Joseph. Les dirigeants de la compagnie ont expliqué qu'ils avaient tout essayé pour recruter au Québec, sans succès. En allant chercher des employés au bout du monde, Holimel espère en faire des employés à long terme, donc des résidents permanents. Un processus qui dure en moyenne 3 ans, avance le vice-président de l'entreprise, Louis Banville, au téléphone. Le patron de Mountain Equipment Co-op affirme que l'entreprise ne veut pas précipiter une décision sur sa chaîne d'approvisionnement après que des consommateurs sur les réseaux sociaux eurent établi le lien entre des marques vendues dans ses magasins et un important fabricant d'armes à feu aux États-Unis. La coopérative de Vancouver, spécialisée dans les articles et vêtements de plein air, vend des produits de marque appartenant à l'entreprise de l'Utah, Vista Outdoor, notamment Camelback et Bull. Or, parmi les activités de Vista se trouvent aussi la conception, le développement et la fabrication de munitions, d'armes d'épaule et d'équipements liés, d'après son site Internet. Une pétition en ligne a été lancée sur le site change.org pour demander à Mountain Equipment Co-op de cesser de vendre les marques de Vista. Une semaine après la disparition de 110 élèves à la suite de l'attaque de leur école dans le nord-est du Nigeria par des membres présumés du groupe djihadiste Boko Haram, le président nigérian Muhammadu Buhari a reconnu lundi qu'elles avaient été enlevées. Le gouvernement reste aux côtés de celles, les étudiantes de Tabchi, qui ont été enlevées, a déclaré M. Buhari lors de la visite à la présidence d'une délégation d'anciens otages de Boko Haram libérés au début du mois.
Approche-toi de moi, j'ai besoin de parler. Parler un peu de toi, de moi, jusqu'à demain peut-être,
peut-être.
Ou bien jusqu'à la mort,
peut-être.
Je ne sais pas encore,
oh, 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 oh,
le temps qu'il durera,
oh, oh, hey, ah.
Cet amour que nous vivons là. Jusqu'à demain peut-être,
peut-être, peut-être.
Ou bien jusqu'à la mort,
peut-être, peut-être.
Jusqu'à demain peut-être,
peut-être, peut-être.
Ou bien jusqu'à la mort,
peut-être, peut-être.
On se jette,
oh, oh,
dans l'amour,
oh, oh,
comme dans une eau claire,
oh, oh,
et l'on fête,
oh, oh,
chaque jour,
oh, oh,
comme un anniversaire. Je te donne tout, et tu te donnes toi. On dit qu'on ira jusqu'au bout, on ne dit pas de quoi. On dit que l'on y croit, on dit n'importe quoi. Je ne sais pas encore le temps qu'il durera. Cet amour que nous vivons là,
ça durera
jusqu'à demain peut-être,
peut-être.
Ou bien jusqu'à la mort,
peut-être.
Jusqu'à demain peut-être,
peut-être.
Ou bien jusqu'à la mort,
peut-être.
On ressemble,
oh, oh,
toi et moi,
oh, oh,
à ces bêtes,
oh,
sauvages,
oh,
qui se mordent,
oh, oh,
pour s'aimer davantage. jamais on n'a fait mieux, jamais on ne fera. Avec un peu d'eau et de feu, plus grand amour que ça,
peut-être, peut-être bien.
Plus bel amour que ça,
peut-être, peut-être bien.
Plus bel amour que toi. Jusqu'à la mort, jusqu'à demain peut-être, ou bien jusqu'à la mort, peut-être, peut-être bien.
Michel Fugain avec Jusqu'à demain, peut-être.
À la une du Journal de Montréal, fugueuse comme à la télé, Kelly Martin-Nollet, comme dans l'émission Fugueuse, serait en cavale à Toronto avec son « copain » entre guillemets, proxénète. Nos athlètes de retour accueillis en héros et on nous montre une photo médaillée au Big Air. Sébastien Toutan a été porté en triomphe par ses proches. Bergevin n'avait rien à dire, c'est la chronique de Marc Defoy, un bon coup avec Plekanec, la chronique d'Yvon Penneau. Une adolescente dont l'histoire ressemble en tout point à celle du personnage principal de la série Fugueuse s'est une fois de plus volatilisée. Ce coup-ci, tout indique qu'elle serait allée rejoindre son proxénète à Toronto. Elle adore l'émission, elle trouve que c'est très réaliste et elle se fait même souvent demander si c'est inspiré de sa vie, lance la mère de Kelly Martin-Nollet. Cette fois, la réalité a rejoint la fiction. Sandra Nollet est sans nouvelles de sa fille de 16 ans depuis samedi. Elle la surnomme affectueusement « Cocotine ». C'est la troisième fugue de plus de 24 heures de Kelly depuis qu'elle est entrée au Centre jeunesse de Laval en octobre 2015. Son comportement s'était d'ailleurs nettement amélioré depuis l'automne. Elle était sur le point d'obtenir une réinsertion partielle à la maison. Description physique de Kelly, parle français mais s'exprime aussi très bien en anglais, mesure 1,55 m, 5 pieds 1 pouce, pèse 54,5 kg, 120 livres, cheveux désormais rouges, yeux pairs, tatouage d'un AK-47 avec l'inscription « Only God can judge me » sur l'avant-bras droit. Toute information pertinente peut être transmise de façon confidentielle en composant le 450-662-4636, 450-662-4636. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a déjà commencé à courtiser des candidats pour prendre le gouvernail du SPVM en 2019 sans attendre les recommandations que le chef actuel a été chargé de lui faire. Le journal a appris de diverses sources qu'au cours des dernières semaines, la mairesse a notamment approché Maître Denis Galland, dont le mandat de 5 ans à la tête du bureau de l'inspecteur général de la Ville de Montréal, BIG, vient à échéance dans un an pour savoir s'il souhaiterait diriger le corps policier. Selon nos informations, l'ex-procureur vedette de la commission Charbonneau n'a pas fermé la porte à la possibilité de devenir le tout premier civil à piloter le SPVM. Martin Prudhomme, qui dirigeait la Sûreté du Québec, s'est vu confier les rênes du SPVM pendant un an par le gouvernement Couillard le 6 décembre dernier, à la suite du rapport d'enquête dévastateur de Maître Michel Bouchard sur le climat extrêmement tendu à la haute direction du corps policier et les irrégularités très préoccupantes à sa division des enquêtes internes. Cet après-midi, le chef Prudhomme expliquera sa stratégie de réorganisation du SPVM en témoignant pour la première fois devant les élus siégeant à la Commission de la sécurité publique de Montréal, dont la séance sera exceptionnellement ouverte au public. « Le chauffeur, accusé d'avoir causé la mort, est libéré. L'homme de 38 ans, en état d'ébriété, aurait tué un travailleur routier à Montréal. Un employé de la construction accusé d'avoir mortellement happé un travailleur du ministère des Transports du Québec, en plus d'en avoir blessé 7 autres, a pu être libéré en attendant son procès. Vincent Lemay, un père de famille de 38 ans, était détenu depuis cette fin de semaine à la suite d'une grave collision survenue au rond-point d'Orval à Montréal qui a coûté la vie à Stéphane Lebel. Le juge, Jean-Paul Brand, a toutefois imposé plusieurs conditions à Lemay que la couronne a qualifiées de « sévères ». Outre le dépôt d'une caution de 5 000 $, Lemay ne devra pas boire d'alcool et il ne pourra pas prendre le volant entre 21 h et 5 h. Il devra continuer à habiter son domicile à Saint-Zotique et avoir un suivi psychologique. La conjointe de Stéphane Lebel, Cynthia Gauthier, affirme que la tragédie aurait pu être évitée. Massé représentera QS au débat des chefs. Québec solidaire a annoncé que Manon Massé représentera la formation politique au débat des chefs lors de la campagne électorale l'automne prochain, en plus d'être candidate au poste de première ministre. Gabrielle Nadeau-Dubois, qui aspirait aussi à représenter les troupes solidaires au débat des chefs, en a fait l'annonce hier au cœur des sciences de l'UQAM à Montréal aux côtés de Manon Massé. Le co-porte-parole a affirmé avoir choisi de laisser le champ libre à sa collègue au terme d'une longue réflexion. Gabrielle Nadeau-Dubois a dit vouloir ainsi prendre de la maturité en politique. Le choix sera maintenant soumis au vote des membres de la formation politique lors de son Conseil national les 12 et 13 mai prochains à Québec. Pour une troisième fois en moins d'un mois, quelques 15 000 élèves de Montréal ne pourront embarquer dans leur autobus, dis-je bien, scolaire demain matin en raison d'une grève des chauffeurs. Les 330 chauffeurs d'autobus de la compagnie Transco débrayeront à nouveau pour la journée de mercredi, comme ils l'ont fait les 30 et 31 janvier dernier. Les trajets touchés desservent des écoles des commissions scolaires de Montréal, Marguerite Bourgeois, English Montreal et Lester B. Pearson, ainsi que le collège privé Sainte-Anne. Les quatre commissions scolaires ont indiqué au Journal de Montréal que les parents affectés avaient déjà été avisés. De plus, ces parents pourront aller porter gratuitement leur enfant au service de garde de leur école si nécessaire. La question du salaire des chauffeurs de Transco est le principal point qui les oppose à leur employeur. Moscou ordonne l'instauration d'une trêve quotidienne en Syrie. La Russie, alliée indéfectible du régime syrien, a ordonné l'instauration d'une trêve humanitaire quotidienne dans la Ghouta orientale où des bombardements meurtriers ont encore eu lieu hier, selon une ONG. Sur ordre du président Vladimir Poutine et pour éviter les pertes parmi les civils de la Ghouta orientale, une trêve humanitaire quotidienne sera instaurée à partir du 27 février de 9h à 14h, a indiqué hier le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, cité par les agences russes. « 5 heures, c'est mieux que pas d'heure, mais nous voudrions que toute cessation des hostilités soit prolongée de 30 jours, comme l'a stipulé le Conseil de sécurité », a réagi le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric. « Nous allons faire de notre mieux pour le déploiement de nos camions et travailleurs humanitaires dans cette zone », a-t-il ajouté. Le pilonnage du régime syrien a baissé en intensité ces 48 dernières heures, mais la campagne aérienne d'une rare violence a tué plus de 550 civils depuis le 18 février. La Russie avait annoncé en 2016 plusieurs trêves humanitaires similaires durant les combats qui visaient à reconquérir la partie rebelle de la ville d'Alep. Des couloirs humanitaires avaient alors été mis en place, mais peu de civils les avaient empruntés. Le quotidien Jornal do Brasil, journal emblématique de Rio de Janeiro, fondé en 1896, a retrouvé sa version papier après 8 ans de circulation exclusivement numérique. Ce retour dans les kiosques du JB a été célébré par de nombreux cariocas, nom donné aux habitants de Rio, la première édition tirée à 40 000 exemplaires ayant été épuisée en quelques heures dimanche. Le retour de l'édition papier a connu un énorme succès, les lecteurs ayant couru vers leur kiosque pour se procurer un exemplaire s'y féliciter le quotidien. Le journal dit vouloir tout miser sur la vente en kiosque, accordant moins d'importance à la publicité et aux abonnements.
Oh Maroué, tu n'as pas le choix. Oh Maroué, c'est plus fort que toi. De plaisir, des moments qui font souffrir. Oh Marie, oh, tu n'as pas le choix. Oh Marie, c'est plus fort que toi. Oh Marie, oh, tu n'as pas le choix. Oh Marie, c'est plus fort que toi.
On vient d'entendre Amadou et Mariam et la pièce « Oh, Amadou ».
Journaux régionaux dans le Nouvel East des insectes pour l'alimentation des humains, c'est un article de Vincent Mongrain. Étudiant au baccalauréat en biologie à l'Université du Québec à Trois-Rivières, Samuel Richard, Jonathan Joly et Gabriel Dubois ont décidé de s'unir afin de créer l'entreprise Insectivore. Leur projet consiste maintenant à faire la production industrielle d'insectes, et ce, à des fins de consommation animale et humaine. Situé dans un local loué par la MRC de Masquinongée, les trois amis font présentement l'élevage de vers de farine. Jusqu'à présent, ils en comptent entre 30 000 et 40 000, et ils estiment être en mesure d'atteindre leur objectif de 2,5 millions d'ici la fin de l'année. L'objectif que nous nous sommes fixé lorsque nous avons lancé la compagnie, c'est d'atteindre une production de 2,5 millions de vers par mois. La reproduction des insectes est exponentielle et avec le nombre que nous avons déjà, nous sommes très confiants de l'atteindre en 2018. Avec une production de 2,5 millions de vers mensuellement, nous allons pouvoir vendre en grande quantité, car présentement, nous la laissons se reproduire, explique Samuel Richard, cofondateur d'Insectivore. Une fois l'objectif atteint, plusieurs possibilités s'offriront aux trois hommes. Ce qui est intéressant, c'est que nous pouvons vendre les insectes en entier à des animaleries. Nous pouvons aussi les vendre séchés ou bien les transformer sous forme de farine. Celle-ci pourrait donc servir à faire différents aliments comme du pain, des barres tendres, des pâtes et de la sauce à spaghetti. L'autre marché que nous aimerions développer, c'est celui de la nutrition reliée à l'entraînement physique, car la farine d'insectes est forte en protéines, faible en gras et possède de bonnes vitamines et de bons minéraux, soutient M. Richard. Éventuellement, il n'écarte pas la possibilité de faire l'élevage de criquets également. D'ici là, les entrepreneurs souhaitent maintenant s'attaquer à la mentalité des gens. Nous voulons vraiment nous implanter dans l'alimentation humaine. Ce qui sera le plus difficile pour nous, c'est de changer la mentalité des gens. Ailleurs dans le monde, c'est quelque chose qu'ils font quotidiennement. Mais au Canada, et plus spécifiquement au Québec, les gens ont une plus grande crainte des insectes. Pour ce faire, nous allons tenter de passer par la jeunesse. Nous voulons donc aller dans les écoles primaires et secondaires afin de présenter différents insectes et démontrer qu'ils ne sont pas nocifs et méchants, ajoute-t-il. Les étudiants ont déjà reçu l'appui du maire de Louisville, Yvon Deshaies. Nous faisons l'élevage de plein d'autres choses et je crois que nous sommes rendus là. Je suis ouvert à ça et je suis très content que de jeunes entrepreneurs s'intéressent à Louisville et à la MRC de Masquinongée. Je pense que ce projet pourrait même générer de l'emploi ici, dans les années à venir, conclut M. Deshaies. Dans le quotidien, l'article d'Annie-Claude Brisson. Les amateurs de bien-être et de yoga de la région auront l'occasion de bénéficier du savoir-faire d'une yogi de renommée mondiale. Annie Langlois, qui habite Bali depuis plusieurs années, offrira un premier événement yoga dans sa région natale au courant des prochains mois. La prochaine année sera occupée en projet pour celle qui habite avec son conjoint et leur fille sur cette île d'Indonésie. Chaque visite au Québec est l'occasion pour la cofondatrice du site Monyo, c'est-à-dire Mon Yoga virtuel, d'offrir des ateliers et retraites qui affichent rapidement complet. Ainsi, l'entrepreneur qui a passé la moitié de sa vie au Saguenay caresse le rêve de partir en tournée et de visiter les régions de la province. Cela sera l'occasion d'aller à la rencontre de mon public. C'est magique d'être proche de mon monde, ajoute celle qui lance cette idée. Ces rendez-vous attendus seront l'occasion d'en apprendre plus quant à la respiration, de méditer, de réciter des mantras et de pratiquer le yoga avec de grandes foules. D'ailleurs, Annie Langlois a confié en exclusivité au quotidien qu'un événement de yoga est en préparation dans la région. Il s'agira d'une première pour celle qui a quitté le Saguenay à l'âge de 18 ans. En plus des ateliers au Québec, des retraites à Bali et des projets sur Internet, Annie Langlois travaille à son deuxième livre. De passage dans sa maison d'enfance, la yogi a confirmé au quotidien plancher sur ce projet dont le contenu ne peut être révélé. Le livre devrait être en vente lors de l'un de ses prochains passages au Québec, soit à l'hiver 2019. Par ailleurs, les prochains mois permettront à la femme d'affaires qui possède entre autres un site Internet à son nom d'explorer l'Europe. Des pourparlers sont en cours afin de développer de nouveaux marchés en France, en Belgique et en Suisse, Ce sera aussi l'occasion pour elle de créer des retraites en Thaïlande, un pays bien apprécié de sa famille. Il y a quelques années, la vie d'Annie Langlois correspondait au standard nord-américain. Son conjoint et elle travaillaient sans relâche, passant peu de temps dans leur grande maison de banlieue montréalaise. Après une énième nuit sans sommeil, le couple a choisi de tout vendre et de partir à l'aventure. En moins de 6 mois, le trio a tout vendu et s'est lancé dans un tour du monde. C'est l'une des meilleures décisions de ma vie. Je suis consciente que ce n'est pas pour tout le monde, mais c'est parfait pour des âmes nomades comme nous, ajoute celle qui assure faire confiance à la vie. Le tour du monde aura été court. Il n'aura fallu que 2 semaines à la famille pour tomber amoureux de la destination paradisiaque de Bali. Le travail d'Annie Langlois et de son conjoint se passe en bonne partie dans le monde virtuel. Ainsi, il n'y a aucune limite physique pour leurs rêves. La famille d'Annie Langlois voyage énormément. La fille du couple compte plus d'une 40aine de marques à son passeport. L'enseignante certifiée en Hatha, Vinyasa et Kundalini Yoga porte l'appel du voyage en elle depuis toujours. Pendant ses études qui l'ont menée en Floride et en Californie, elle clamait haut et fort qu'un jour, elle vivrait à l'étranger. Celle qui a passé plus de 16 ans dans le domaine de la mode à titre de styliste et de mannequin ne peut garantir le temps que sa famille passera à Bali. Chose certaine, Annie Langlois confirme avoir eu un réel coup de cœur pour l'Asie et les cultures religieuses. La contemplation est ce qui caractérise le rythme de vie là-bas. Au quotidien, la famille prend le temps de profiter de la nature. Or, pour le moment, le trio se laisse porter par les occasions. Dans le droit, Daniel Leblanc, plus de 20 000 nids de poules colmatés. Avec les températures en dents de scie et le printemps qui semble vouloir s'installer hâtivement, les cols bleus affectés au colmatage de nids de poules ne chompent pas tant à Ottawa qu'à Gatineau. Uniquement durant la première moitié du mois de février, soit en l'espace de 14 jours, la trentaine d'équipes à l'œuvre sur le réseau routier de la ville d'Ottawa ont réparé 3 429 nids de poules. Il s'agit d'une moyenne de 245 interventions par jour. Au total, entre le 29 novembre et le 13 février, soit les plus récentes données disponibles, un peu plus de 17 500 trous dans la chaussée ont été colmatés par les employés de la capitale fédérale. Les récentes phases de gel et de dégel et les 30 mm de pluie tombées la semaine dernière n'ont certainement pas contribué à améliorer l'état de la chaussée, mais la ville d'Ottawa soutient que le nombre de cols bleus affectés au colmatage des nids de poules n'a pas nécessairement été ajusté à la hausse pour autant. Et dans la tribune, Tommy Brochu, Kim Boutin rentre au pays triomphante. Des cris, des applaudissements, des larmes de joie, des rires, des câlins, des félicitations s'entremêlaient joyeusement lundi soir à l'aéroport Pierre-Elliott Trudeau de Montréal, où de nombreux membres des familles d'athlètes étaient venus accueillir leur Olympien de retour de Corée du Sud. De ces athlètes, on comptait 2 Sherbrookeois, la triple médaillée Kim Boutin et le patineur Alex Boisvert-Lacroix, qui est rentré au pays les mains vides. Visiblement fatigués, les Olympiens n'en ont pas moins été plus généreux les uns que les autres, signant de nombreux autographes et prenant un grand nombre de photos avec leurs partisans venus de partout au Québec. La fébrilité était palpable et les frissons garantis lorsque les Canadiens se sont pointés le nez dans le hall de l'aéroport. La patineuse de vitesse sur courte piste, Kim Boutin, semblait heureuse de rentrer au pays après 2 semaines intensives de compétition. « Ça fait du bien. » Pour l'instant, j'ai seulement besoin de prendre du temps pour moi, avec ma famille, afin de reprendre de l'énergie pour le championnat du monde qui s'en vient. Les Jeux de Pyeongchang ont été émotifs pour Kim Boutin, qui a remporté 1 médaille d'argent et 2 de bronze. On me disait souvent que les Olympiques, c'était gros, qu'il y avait beaucoup d'émotions et que c'était difficile à gérer, continue-t-elle. Au départ, ça ressemblait à une compétition normale, Mais plus ça avançait, plus il y avait des émotions. Il y a eu des hauts et des bas. Je m'étais bien préparée à vivre ça. Et pour terminer là-dessus, avec ses performances, l'athlète de 23 ans pourrait bien inspirer d'autres jeunes, selon le club de patinage de vitesse de Sherbrooke. Les inscriptions augmentent d'ailleurs de 20 % après les années olympiques. Vous écoutez le quotidien des quotidiens. Hélène Denis qui vous accompagne. Je vous invite à rester là pour la suite de l'émission, entre autres les actualités culturelles.
Ibrahim Malouf, accompagné de Mélodie Gardot, nous chantait « J'attendrai ».
«
l'actualité culturelle, je vais lire la chronique d'Hugo Dumas, Surprenant Normand. Heureusement qu'il existe des Normands Brathwaite pour nous réconcilier avec le showbiz québécois, un milieu propice à l'hypocrisie et aux poignards enfoncés dans le dos. À Conversation secrète de Paul Arcan dimanche soir, Normand Brathwaite a accordé une entrevue sans filtre, touchante et même croustillante. J'aime bien cet artiste qui n'esquive aucun sujet dit interdit. Brathwaite est un des rares à parler de son salaire, ultime tabou dans la colonie artistique québécoise. Dans ses belles années, il empochait plus de 1 million par année. Jamais il n'a craché sur la pub qui lui a permis de s'acheter un magnifique appartement rue Chérié. Bien sûr, Normand Brathwaite, 59 ans, s'est beaucoup et souvent confié, notamment à ma collègue Isabelle Massé qui a rédigé sa biographie en 2012. Mais de repasser autant d'éléments marquants de sa vie, tout ça en 45 minutes, était super intéressant. Cet épisode de conversation secrète à TVA qui n'annonçait rien d'exclusif a été agréablement surprenant. Dans sa période dépressive, l'animateur et comédien s'étendait et pleurait devant le Westmount Square, un endroit où personne ne le reconnaissait. À trois reprises, il s'est rendu sur le pont Victoria dans le but de se suicider. La peur de souffrir physiquement lui a fait rebrousser chemin les trois fois. Normand Brathwaite a également révélé que sa fille Elisabeth Blouin-Brathwaite a fréquenté un criminel et que son fils Édouard a failli aboutir en prison après avoir participé à une extorsion pour se payer un tatouage. Dans le trajet en voiture avec Paul Arcan, Normand Brathwaite a évoqué la pédophilie connue de certains membres de l'industrie artistique québécoise. Il y a des gens dans le show business qui aiment ça, des photos de petits gars tout nus. Ça se sait, a lancé Brathwaite. Invité par Arcan à préciser cette déclaration, l'ancien timonier de C'est quoi a rappelé qu'il ne s'agissait que de rumeurs. Ce bout-là de l'interview aurait mérité d'être creusé davantage. C'est une affirmation grave qui est restée flottante. Maintenant installé à la campagne sur un terrain de 52 acres, Brathwaite a longtemps fréquenté les bars de la rue Prince-Arthur, coin Saint-Laurent. Oui, il a reniflé de la cocaïne de façon récréative les samedis soirs. Il affirme ne pas avoir eu de difficulté à arrêter. Et savez-vous ce que signifie l'expression « faire une octave » dans l'univers des musiciens poudrés? C'est aspirer une ligne de coke qui s'étire entre deux notes do d'un piano. À propos de la comédie « Grosse vie » de Radio-Canada, Brathwaite ne se défile pas. C'est un show qui n'était pas bon. Voilà pourquoi on aime Normand Brathwaite. Il est capable d'autocritique et d'autodérision. Si seulement ses camarades de l'UDA pouvaient en faire autant. Cette conversation secrète a été suivie par 1 151 000 téléspectateurs. La voix est demeurée au sommet du palmarès avec 1 881 000 fans et Tout le monde en parle a retenu l'attention de 888 000 curieux. Se heurter à un mur. Bien malgré elle, Véronique Cloutier et Marie-Pierre Morin ont été apposées l'une à l'autre dans la guerre des codes d'écoute du jeudi soir. Deux têtes d'affiches populaires, une seule case horaire. Le but, expédier l'autre adversaire au tapis. Face au mur de TVA, a toujours eu le dessus sur Première fois de Radio-Canada. Au fil des semaines, l'écart entre les deux émissions vedettes s'est rétréci et la tendance a été renversée le soir du 8 février. Selon les données Numéris qui incluent les enregistrements, l'épisode de Face au mur du 8 février, 922 000, a été devancé par Première fois de Radio-Canada, 958 000. C'est une courte avance, oui, mais c'est une victoire pour Véro et son équipe. Les patrons de TVA ne doivent pas trop apprécier cette situation qui les désavantage. Jeudi dernier, le jeu Face au mur n'a intéressé que 770 000 personnes, alors qu'il n'y avait pas de première fois à la SRC en raison des Jeux olympiques. C'est une cote d'écoute plutôt basse pour un projet aussi gigantesque. $2 500 US, c'est le prix du billet le plus cher pour l'exposition David Bowie Is, qui sera présentée au Brooklyn Museum du 2 mars au 15 juillet. L'acquéreur d'un billet spécial Aladdin Sen pourra visiter l'exposition hors des heures d'ouverture du musée new-yorkais en compagnie d'une personne de son choix, entre autres avantages. Le prix d'un billet ordinaire pour cette exposition, lancée au Victoria and Albert Museum de Londres en 2013, est de 20 US, 25 US le week-end. L'Iris Hommage sera décerné à André Forcier. C'est Marc-André Lussier qui signe l'article. Après un peu plus de 50 ans de cinéma, André Forcier pourra enfin mettre la main sur un trophée Iris et pas le moindre. Lors du prochain Gala Québec Cinéma, anciennement la soirée des Jutras, qui se tiendra le 3 juin, celui que l'on a surnommé l'enfant terrible du cinéma québécois sera la personnalité du milieu du cinéma à qui l'on rendra hommage. « Je m'y attendais un peu », lance en riant l'intéressé quand on lui demande quelle a été sa première réaction en apprenant la nouvelle. « Je pense que j'étais dû. Cet hommage me fait évidemment très plaisir. Quand j'ai commencé à réaliser Chronique labradorienne le 26 novembre 1966, je n'aurais jamais pu imaginer que ma carrière serait aussi longue. Les motivations qui me poussent à faire des films n'ont jamais changé, cependant. J'aime faire passer des idées par des émotions. C'est ce qui m'a toujours guidée. » Les Grands Ballets ont dévoilé hier soir la programmation de leur 62e saison placée sous le signe de la féminité. Deux créations originales seront présentées. Tout d'abord, l'amant de Lady Chatterley de la chorégraphe britannique Katie Marston, qui sera présentée en octobre. Ce ballet narratif inspiré de l'œuvre de D.H. Lawrence évoquera l'intense passion d'une aristocrate avec un garde-chasse. Puis la soirée « Femmes » au pluriel, décliné en trois temps et signé par trois figures montantes de la chorégraphie européenne, sera proposé en mai 2019. La saison sera clôturée par une soirée des étoiles intitulée « Et je t'aime encore », au cours de laquelle les petits chanteurs du Mont-Royal interpréteront des chansons de Céline Dion durant les interludes, alors que les danseurs de compagnies de renommée internationale s'exécuteront sur un répertoire classique et néoclassique. Le surf des neiges remplace le hockey. Sébastien Toutant en tête des codes d'écoute aux JO. En raflant la médaille d'or en surf des neiges vendredi soir, le Québécois Sébastien Toutant a également permis à Radio-Canada d'obtenir ses meilleurs codes d'écoute des Jeux olympiques de Pyeongchang. Selon les données préliminaires de Numéris, 1 080 000 personnes étaient à l'antenne entre 21h15 et 21h30 durant la finale masculine du Grand Saut, épreuve au terme de laquelle le planchiste a raflé les grands honneurs. Lors des Jeux de Sochi en 2014, le diffuseur public avait atteint son sommet d'écoute durant la finale de hockey masculin Canada-Suède. La pointe avait atteint 2 047 000 lève-tôt le dimanche matin. Cette année, le hockey a rallié son plus grand auditoire lors du match opposant les Canadiens aux Tchèques. Samedi, 682 000 ont regardé nos joueurs patiner pour décrocher la médaille de bronze entre 9h15 et 9h30.
Et si l'automne chasse un été de pluie, la quatre elle est morte, on a repeint la rue. Elisa dedans, petit Jean, l'écran est fort. Je prends la guitare, j'en suis à trois accords. J'ai trouvé des girolles au marché ce matin. J'aimerais vivre à Rome, oh, j'aimerais bien. J'ai planté des tulipes et le tarte à éclore. C'est tout, je crois. Ah oui, je t'aime encore. Mais où tu? Si loin sans même une adresse. Et que deviens-tu? L'espoir est ma seule caresse. J'ai coupé mes cheveux, enfin dirais-tu. Ça m'a fait bizarre, mais j'ai survécu. On m'invite, on me désire, et je danse et je sors. Et quand je danse, je t'aime encore.
Céline Dion et la pièce « Et je t'aime encore ».
Sujet libre, alors j'ai choisi de lire la chronique de François Bourque dans Le Soleil, intitulée « La dernière course ». Je n'ai pas vu la scène, mais la description des collègues sur place était émouvante. Pierre Harvey et son fils, enlacés et en larmes, après l'éprouvant 50 km qui aura laissé Alex à 6 secondes du podium à son dernier tour de piste olympique. Pour l'athlète et les proches, une grande déception, on peut le comprendre. Mais pour le lointain spectateur que je suis, une grande réussite qui commande l'admiration. Quatrième dans un sport ancestral pratiqué par des millions de personnes dans le monde, dont plus de 2,5 millions au Canada seulement. Un exploit. Eût-il terminé dixième, que je n'en penserais pas moins. Cela me touche davantage que les médailles dans des sports si difficiles et spectaculaires soient-ils, pratiqués par quelques dizaines ou centaines de happy few sur la planète. Cela n'enlève rien aux qualités et à la détermination des athlètes qui réussissent, mais les probabilités mathématiques d'être le meilleur dans un sport marginal sont plus grandes. Ce 50 km de ski de fond dans la nuit de vendredi à samedi fut mon meilleur moment olympique cette année. Le spectacle des couleurs dans le soleil du début de parcours. La chorégraphie du peloton, d'abord compacte, puis qui s'allonge et se fissure. L'élégance des glisses, le rythme brusque des montées, les gros plans de visage déformés par l'usure et l'effort, alors que la brume se lève. Ça fait drôle de le dire ainsi, mais ce que j'ai aimé de cette course, c'est sa lenteur. Plus de 2 heures en piste. On a le temps de voir se déployer les stratégies et tactiques d'équipe, d'apprécier ceux qui tirent en avant et de maudire ceux qui se laissent porter. Le temps de supputer sur les chances des échappés de tenir jusqu'à la fin, de chercher les signes de défaillance, de mesurer les écarts qui se creusent ou se referment. Le temps de se réjouir de voir son favori en tête, de s'inquiéter s'il recule, de fermer les livres quand tout semble fini pour reprendre tout à coup espoir, alors que l'improbable est encore possible. Un suspense étiré jusqu'au dernier instant. Plusieurs des nouvelles disciplines olympiques n'offrent pas ce plaisir. Dessinés pour une génération plus pressée que la mienne, ces sports d'hiver sont souvent expédiés en quelques secondes. Un élan, un saut, trois pirouettes, une vrille et demie, et hop, au suivant. Une vrille et demie, et hop, au suivant. Le format sied parfaitement cette génération qui peine à rester concentrée longtemps sur la même chose et qui carbure au partage des « wow » sur les réseaux sociaux. C'est plus difficile de partager les images d'une course de 2 heures où il n'y a pas de mouvement spectaculaire, sinon celui de la course elle-même. Ça n'empêche pas d'admirer le spectacle et l'agilité que commandent les nouvelles disciplines venues des sports extrêmes. Le travail et l'abnégation pour arriver à ces perfections de 10 secondes. J'en suis souvent ébaudi, mais la vérité est que je n'y comprends rien, incapable d'apprécier par moi-même les manœuvres, de comprendre pourquoi c'est celui-là qui a gagné et pas l'autre. C'est toujours la limite avec les sports jugés. Le mot le dit, il faut s'en remettre au juge. Ou à Alain Goldberg, ce qui nous transporte au pays merveilleux des superlatifs, mais ne suffit pas à bien comprendre ce qui a fait la différence entre les performances. À lire et entendre les experts et athlètes, on en vient à croire que les jeux étaient parfois faits d'avance en faveur des favoris, c'est le cas de le dire, ou que les dés étaient pipés pour des compatriotes, d'où toutes ces controverses. C'est une des raisons pourquoi je préfère l'athlétisme et les sports traditionnels, ski de fond, patinage, longue piste, course, saut, etc. Ces sports où c'est le chronomètre, le galon ou le nombre de buts marqués qui décide. Le premier qui arrive au fil est celui qui gagne. Alex Harvey n'est pas arrivé premier au fil. On peut partager sa déception, mais on peut gagner l'admiration sans avoir été premier au fil ou sur une marche de podium. On ira le lui rappeler lorsqu'il rentrera au pays dans quelques semaines pour participer avec son père, Pierre Harvey, à la nouvelle Lopette au Mont-Sainte-Anne, course inspirée des traditions scandinaves. Une épreuve de longue distance de 48 km qui vise davantage la valorisation de l'effort que le résultat. Une épreuve où il n'y aura ni larmes ni perdants à consoler. Comment éviter d'attraper les virus à la maison? Malgré la température clémente des derniers jours, la saison de la grippe est loin d'être terminée. Lorsque notre enfant ou notre compagnon de vie attrape le rhume, la grippe ou la gastro, est-on condamné à attraper le même virus? Les chances de s'en sortir indemnes sont faibles, mais voici les conseils de 2 médecins pour s'armer le mieux possible. Nadiel Couteloup, collaboration spéciale, c'est dans la presse d'aujourd'hui. Tout d'abord, il faut savoir d'où vient le virus. Si on a été exposé à la même source de virus que notre enfant ou notre conjoint, on a beaucoup plus de chances d'attraper ce même virus. Par contre, si notre enfant a attrapé un virus à la garderie ou que notre mari a attrapé un virus au bureau, il y a différentes choses que l'on peut faire pour se protéger, mais qui demandent énormément d'attention et de minutie, prévient Caroline Katch, pédiatre, microbiologiste, infectiologue, médecin responsable de la prévention et du contrôle des infections au CHU Sainte-Justine. Dans le cas de la gastro-entérite, les virus se transmettent directement par contact. Le problème, c'est que ces virus sont hyper résistants dans l'environnement, explique la docteure Katch. Ça ne prend parfois qu'un petit virus qui traîne sur le comptoir de la cuisine, qui va aller sur notre carotte crue qu'on va manger, et ce sera suffisant pour causer une maladie. Notons que les virus peuvent rester vivants sur un comptoir pendant plusieurs jours. La solution? Ça prend vraiment une solution d'eau de Javel pour se débarrasser du virus, surtout du norovirus qui cause le plus d'épidémies de gastro, souligne la pédiatre. Avec une lingette neuve, on nettoie donc régulièrement les comptoirs de la cuisine, la poignée du frigo, les robinets de la cuisine et de la salle de bain, ainsi que la chasse d'eau de la toilette qui est une mine de bactéries. Autre point, la personne atteinte de gastro devrait éviter de cuisiner. Si c'est possible, la personne avec une gastro devrait utiliser une salle de bain différente du reste de la famille. Sinon, il faut veiller à désinfecter la salle de bain familiale régulièrement, ce qui n'est pas évident. La personne malade sera-t-elle capable de nettoyer chaque fois toute la salle de bain avec de l'eau de Javel? Parce que quand on vomit, on ne propulse pas les virus uniquement dans la toilette, mais partout dans le mètre carré autour de nous, précise la Dr. Quatch. On devrait aussi éloigner le plus possible les brosses à dents de la famille de celles du malade. Idéalement, la personne qui combat la gastro devrait manger dans sa chambre et limiter ses sorties jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de symptômes. Un peu comme on fait à l'hôpital, poursuit la médecin. Se prémunir contre une gastro-entérite qui court dans une maison, ce n'est pas de la tarte. C'est faisable, mais ce n'est pas de la tarte. De façon générale, quand la gastro rentre dans une famille, ça ramasse tout le monde. Lorsqu'un enfant est malade, c'est pire, parce qu'ils ont toujours besoin de quelqu'un d'autre pour se nettoyer ou se moucher. Et comme parents, on ne se nettoie pas toujours les mains après. Notre attitude est différente. On leur donne des bisous, on les prend dans nos bras. On ne les isolera pas dans une chambre et on ne se mettra pas de masque. On se dit que ce n'est pas grave, qu'au pire, on tombera malade. Et on l'est souvent après. À l'hôpital, je n'attrape rien, mais avec mes enfants, j'ai tout attrapé, confie la Dr. Katch, mère de 3 enfants de 11, 16 et 19 ans. Se laver les mains avec de l'eau et du savon reste le moyen le plus efficace pour se protéger des virus, du rhume et de la grippe. La personne malade devrait faire de même. Il faut se laver les mains fréquemment, pendant 15 secondes, bien frotter, bien rincer, rappelle la pédiatre Catherine Hénin, qui travaille au service de soins complexes de l'hôpital de Montréal pour enfants. La mère de 4 enfants a un truc pour les petits, leur demander de chanter 2 fois « Bonne fête » en se lavant les mains. Se munir d'un antiseptique à base d'alcool dans la maison est aussi une bonne idée, ajoute-t-elle. En plus de se laver les mains, on évite de se toucher le visage. On ne se rend pas compte du nombre de fois qu'on touche son nez, sa bouche, qu'on se frotte les yeux. Si nos mains sont contaminées, c'est comme ça que les microbes entrent dans nos corps, dans notre corps. Ce n'est pas par la peau, mais par ses orifices, précise la docteure Henin. Voilà, ça complète l'émission d'aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute de Le quotidien des quotidiens. Ici Hélène Denis qui vous invite à rester là. Si vous nous écoutez en direct, je reste au micro pour animer les paractualités. Merci à Maurice Bolduc à la mise en onde et au choix musical.